quand Marie-Paul Béranger et Colette Kaamelin m'ont proposé d'intervenir, elles ne savaient pas que j'étais hanté par cette année 1913 depuis au moins une quarantaine d'années, depuis la sortie des trois volumes de Liliane Brion-Guéry. Voilà. En particulier du troisième, j'avais commencé par le troisième. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu intégralement cette somme, bah, d'abord faites-le. Et peut-être faut-il commencer par le troisième volume, enfin, je n'entre pas dans le détail. Il y aurait d'ailleurs une lecture culturaliste à faire du statut de Liliane Brion-Guéry, sur laquelle je n'ai pas beaucoup d'éléments, mais qui montre bien le caractère relativement marginal de sa démarche à l'époque. On est à la fin des années 60, la plupart des textes sont datés de 68, certains remontent à même à 1960, ce qui semble indiquer une histoire un peu complexe de cet ouvrage. Et tout ça sort à la fin des Trente Glorieuses, c'est pas tout à fait par hasard. Et peut-être aussi interroger de manière culturaliste, enfin un petit exercice d'histoire culturelle en 30 secondes, sur le statut de cette Liliane Brion-Guéry, qui est épouse de, hein, puisque c'est la femme de Marcel Brion, qui est non pas à l'université, mais au CNRS. Et qui au CNRS est en histoire de l'art, ce qui n'est pas si fréquent, même encore aujourd'hui à cette époque. Enfin, il y aurait, vous voyez, quand on met le doigt dans l'engrenage... En tous les cas, je suis resté très marqué par ce livre, je n'en suis pas sorti. D'ailleurs, la maîtresse d'œuvre Liliane Brion-Guéry parle de cette année témoin, elle met des guillemets année témoin, je la cite toujours, d'une étude horizontale, et ligne horizontale, et on voit bien le projet, son côté fascinant pour un jeune lecteur des années 70, en même temps les limites assumées, qu'a bien pointé Madeleine Robériot, à laquelle je me réfère ici, parce qu'il y a eu deux recensions de ce livre dans les annales, en 1974 et en 1980, donc 7 ans après la publication du troisième tome. Voilà. Et Madeleine Robériot s'en excuse, enfin bon, l'essentiel c'est qu'il y avait ces recensions. Et elle pointe bien les limites, mais assumées de l'ouvrage, dont le sous-titre, oui le sous-titre, puisque le titre c'est, le principal c'est l'année 1913, c'est « Les formes esthétiques de l'œuvre d'art ». Et si on n'a pas compris que c'était esthétique, esthétique de l'œuvre d'art, bon, c'est clair. Ma perspective sera ici, alors je dirais plus large, mais ce n'est pas du tout une hiérarchie, c'est effectivement une perspective culturaliste qui part du principe qu'on se mettrait d'accord, au moins pendant les 45 minutes de mon intervention, sur la notion d'histoire culturelle, sur ses ambitions, et alors à leur tour, leurs limites d'ailleurs, puisque je pose ici, je ne détaillerai évidemment pas, alors vous lisez mon que sais-je, une acception large dite souvent anthropologique de culture, comme ensemble des représentations propres à une société. Donc l'histoire culturelle est une forme d'histoire sociale, je préfère être très clair là-dessus, c'est la société qui est interrogée par le truchement, je dirais au sens de Molière, hein, par le truchement des représentations. Et des représentations, là aussi soyons précis, premièrement qui vont, j'allais dire, du poème au traité philosophique en passant par le tableau, l'immeuble, la symphonie, la bande dessinée, représentation, d'ailleurs les équations mathématiques sont des représentations, c'est pas une représentation d'algèbre, et d'autre part ces représentations qui effectivement génèrent des pratiques sociales, pour répondre tout de suite à l'objection, on reste dans les nuées, absolument pas. Bien. Alors, ma perspective ici sera celle de la mise en relation de ces fameux arts entre eux, de la mise en relation des arts avec l'ensemble de la culture contemporaine, avec des hypothèses d'homologie. Je dirais pas inconsciente, parce que déjà inconsciente, c'est un mot redoutable. En tous les cas, des hypothèses d'homologie. Pour ne prendre qu'un exemple, je sais pas si on y reviendra, mais un texte comme le, entre guillemets, manifeste, puisque c'était pas son nom, du Vieux Colombier, 1913, pour moi, c'est à lire en relation avec la provocation qu'est le cinématographe. Donc si on pense qu'au théâtre, si on pense pas au cinématographe, on perd l'essentiel du texte de Copeau, etc. Et tout sera un peu comme ça. Et il aura donc compris, j'ai fait le choix d'un essai. C'est pour ça que je parlais d'excentricité intellectuelle, puisque dès 1973, dès la sortie du troisième volume, j'ai été saisi d'un soupçon, donc une question assez post-moderne, à savoir que si on est dans la logique moderniste de ce livre, qui dit clairement, il y a une citation de Liliane Brion-Guéry qui est tout à fait évidente là-dessus, n'ont pas été guidées nos recherches par des critères de valeur au singulier, mais par celui, donc on passe du pluriel au singulier, de novation. Donc on est dans une perspective de novation, que je qualifierais, sans entrer non plus dans le détail, de moderniste. Effectivement, si on part de cette théorie téléologique de la culture valorisant le mouvement, l'innovation, la rupture, tout cela cristallisé dans des mouvements, des avant-gardes, et je ne reviens pas non plus sur la métaphore militaire, vous connaissez le débat, des mouvements ou des individus, et au sein de ces mouvements, ou même en marge des mouvements, ce sera encore plus beau, qui sont pionniers, précurseurs, prophètes. Bref, une grille de lecture progressiste, alors, de la création et du créateur, ce mot redoutable, qu'un contemporain de Jean Racine aurait écrit avec une majuscule et aurait affecté, signé adieu, et qu'un contemporain de, bon, je cite au hasard, de Bernard-Henri Lévy assignera, mettra qu'un petit C, assignera à Jean-Paul Gaultier. Donc on voit très très bien le sens de l'histoire. Donc toute la modernité du XXe siècle à venir n'est-elle pas déjà présente en 1913? Donc vous comprenez qu'évidemment, à la limite, je sors de mon domaine, parce que ce n'est pas un historien qui devrait se poser cette question, c'est un essayiste. Alors bon, voilà, j'ai changé de costume, je suis essayiste. 1913 étant ici, je n'entrerai pas non plus dans le détail ébauché, du débat ébauché tout à l'heure, comme assigné à la veille de la Première Guerre mondiale, même si on pourrait être encore plus subtil en distinguant effectivement la logique de 1913 de celle du 1914 d'avant les guerres. Bon, je ne reviens pas jusque-là. Le XXe siècle en question, ça a déjà fait l'objet de l'échange de tout à l'heure, donc c'est parfait. Autre hypothèse, c'est le court XXe siècle, qui va, mais j'essaierai de le montrer, sinon de le prouver, du déclenchement de cette Première Guerre mondiale à la chute du mur de Berlin. Donc 75 ans, trois quarts de siècle, tout au plus. Bon. D'où cette interrogation, tout le XXe siècle est-il dans 1913? Alors, je considérerais cette question que je me pose à moi-même, parce que on me disait tout à l'heure que j'allais apporter des réponses. Donc évidemment, comme tout chercheur, je n'apporte que des questions. Hein. Bon, voilà. On considérera successivement, premièrement, ce qui pourrait aller dans le sens de cette hypothèse, et qui la transformerait en thèse, hein, ce qui est quand même une promotion. Ensuite, ce que cette hypothèse nous dit sur l'identité culturelle du XXe siècle, ça m'interroge en tant qu'historien du culturel. Et enfin, où se situerait l'essentiel, pour ne pas dire l'essence, l'essentiel du mouvement culturel profond des sociétés modernes. Vous voyez l'ambition. Tout ça en 40 minutes. Alors, première étape, un XXe siècle pour rien. Ça, allons-y jusqu'au bout. Bon. Alors, 1913 peut, sous le regard d'un tel ouvrage, de nos réflexions depuis lors, y compris, je pense, ce matin, cet après-midi, demain et les prochains jours, considéré comme apogée ou finistère, c'est pas tout à fait la même chose, des radicalismes. Alors, sous le regard, évidemment, délibérément, je dirais vulgairement rétrospectif, anachronique, vraiment au sens strict du terme, non des contemporains, quoique, mais du canon culturel du XXe siècle, voire du XXIe siècle, débutant jusqu'en 2013. Et cela, ce serait particulièrement sensible si on isole quelques terrains stratégiques, je n'en isole que trois, rapidement, puisque, par définition, je parle devant des spécialistes assez pointus de certaines parties de ces terrains. La littérature, la musique, la peinture. Autrement dit, les arts littéraires, les arts sonores, les arts visuels. Il est évident que nous avons intégré dans ce canon culturel du XXe siècle, voire du XXIe siècle débutant, l'affirmation qu'il y aurait un moment de rupture et de refondation, déjà perceptible autour de personnalités, je ne cite que quelques exemples, mais on comprend les échos que ça donne, Apollinaire Sandrars pour le poétique, Marcel Proust pour, alors faut-il dire le romanesque en tous les cas, nous sommes vraiment devant des œuvres qui sont des œuvres à la fois de rupture et de fondation, je répète toujours dans le discours que nous avons admis et que moi personnellement en tant qu'historien du culturel je ne conteste pas, je signale au passage que nous fonctionnons sur ces hypothèses-là et ça me suffit. Mais si on interroge les arts sonores, on a, et là du coup, ce qui m'intéresse, c'est cette mise en relation, ce que je disais tout à l'heure pour le vieux Colombier. Les arts sonores, c'est exactement la même chose, avec en particulier deux événements en forme de scandale. D'ailleurs, dans l'histoire des scandales qu'on commence à faire, ce sont devenus des exercices de style. Évidemment, le Sacre du Printemps, 20 mai, et aussi, peut-être moins connu, sauf des musicologues présents dans cette salle, le grand concert scandale de la musique du XXe siècle, peut-être de toute l'histoire musicale, le concert scandale du 31 mars 1913, à Vienne, qui a fait l'objet d'une étude très précise à laquelle je vous renvoie, d'Esteban Buch, hein, B-U-C-H, le Kaschenberg, sous titre « Naissance de l'avant-garde musicale », et qui est une étude de cas précisant sur les quelques heures de ce concert. Hein. Vous avez un ouvrage entier chez Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2006, consacré à ce concert-là, qui est vraiment fondateur pour toute la musicologie. Et vous voyez, rien que le nom de Schoenberg nous dit beaucoup de choses, d'autant plus que les conclusions d'Esteban Buch, qui est un culturaliste, il peut me permettre de l'annexer, il le reconnaît lui-même, c'est que le scandale a été en grande partie organisé par le clan Schoenberg. Enfin, quand je dis clan Schoenberg, ce n'est pas du tout péjoratif. Le groupe Schoenberg, avec ses disciples von Webern, c'est pas négligeable, et Berg, et comment ils ont préparé une atmosphère de scandale dont après ils ont peut-être été un peu les maîtres d'œuvre, les apprentis sorciers légèrement dépassés, puisque ensuite il y a tout un commentaire de Schoenberg sur ce scandale, sur le fait que, au fond, cette histoire est politique. C'est très intéressant. Dès le lendemain, il est interviewé par la presse. La presse, alors là, la grande presse s'intéresse au scandale, la grande presse germanophone. Et il répond, mais tout ça, c'est une affaire politique. Et deuxièmement, très intéressant chez Schoenberg, je suis absolument outré de ces réactions, parce qu'il faut préciser que ce concerne, c'est pas terminé. On n'a pas entendu Malheur. On a entendu Webern, ça commençait très très mal. Ensuite, on passe à Berg et à Schoenberg. Et on ne peut même pas entendre Malheur compte tenu de l'état d'excitation d'une bonne partie du public. Et la réponse de Schoenberg est très intéressante parce que ça consiste à dire « Je comprends qu'on puisse siffler, mais il faut attendre la fin des œuvres pour siffler. » Alors qu'évidemment, on n'a pas attendu la fin des œuvres. On a sifflé Webern dès les deux premières minutes. Bon, voilà. Vous avez, dans le domaine des arts sonores, deux moments essentiels qui se situent en 1913. Même chose pour les arts visuels, avec ce qui me paraissait intéressant du point de vue toujours de l'histoire culturelle, la querelle presque sans solution sur l'attribution de l'invention de l'abstraction. Puisque, grosso modo, les années 1910-1914 sont le moment, la fenêtre, où se situent les candidatures à l'invention de l'abstraction. Parce qu'en travaillant, moi qui ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la peinture, et plus généralement des arts plastiques et plus généralement encore des arts visuels, un peu avant de penser à cette conférence, j'avais quand même relu quelques classiques et je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, 2013 en tous les cas, début du XXIe siècle, il y a d'assez vives discussions, non plus sur l'invention de, parce que bien entendu dans une perspective moderniste c'est quand même très important d'avoir été le premier à, mais sur les stratégies qui ont amené les principaux concurrents à légèrement truquer, à vrai dire, les documents, pour se présenter comme inventeur de. Et les trois concurrents, j'entre pas dans le détail, sont bien sûr Malevitch, mais aussi Kandinsky, et puis, j'allais dire, le couple Larionov-Gontcharova. Je n'entre pas dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment qui, rétrospectivement, assez vite, mais enfin, disons, après la Première Guerre mondiale, quand même une fois de plus, a été posé comme fondateur en matière d'art plastique, qu'on résume à invention de l'abstraction, bien entendu, c'est plus subtil que ça. Et dès les années 20, il y a eu candidature avec, de la part de Kandinsky, presque surpris la main dans le sac, mais aussi de la part, alors encore plus clairement, de Malevitch, volonté de légèrement gauchir la documentation pour dire, mais oui, regardez cette aquarelle qui prouve que j'étais le premier. Évidemment, là aussi, rétrospectivement, on peut signaler que dès 1913-14, Marcel Duchamp est sur un terrain encore plus radical et que dans une perspective moderniste, il dépasse tout le monde, puisque l'histoire des ready-made commence à ce moment-là, et que même les neuf moules Malik sont de 1913-1914, c'est une sorte de radicalisation de la mariée mise à nu, enfin bref, c'est tout à fait fascinant de voir que ce Marcel Duchamp, dont on peut considérer qu'il est le père absolu d'une forme de radicalisme, et je répète, essentiellement dans le discours, je ne me prononce pas sur la qualité ou pas de ses œuvres, mais sur leur position en surplomb, eh bien tout ceci se situe avant la déclaration de la Première Guerre mondiale, ce qui n'est donc pas la Première Guerre mondiale, comme je disais tout à l'heure, mais la Grande Guerre. D'autant plus que, deuxième remarque, il faut élargir ces exemples, on pourrait entrer dans les détails et les multiplier, au mouvement culturel, et là au pluriel. L'intérêt de ce point de vue du futurisme, qui bien entendu est lancé préalablement, mais qui continue jusqu'aux abords de la Première Guerre mondiale, que certains de ses promoteurs ont d'une certaine façon, sinon annoncé, du moins clairement théorisé, le futurisme occupe clairement en 1912-1913 un terrain transartistique, le premier opéra futuriste, 1913. Transculturel, on peut penser, pour ne prendre qu'un exemple, à ma chère, à titre personnel, Valentine de Saint-Point, mais aussi la cuisine futuriste, etc. Une forte dimension intellectuelle dans le futurisme, avec une multiplication des manifestes. Je pense que la manifestite est à son comble avec le futurisme. La logique manifestante monte à l'horizon depuis deux ou trois générations, mais alors là, on est vraiment à son maximum, pour ne citer que 1913, en particulier le manifeste futuriste de la Luxure. Bien. Avec aussi cette nécessité d'élargir, deuxième point, par la dialectique des arts entre eux. Reprenons le Sacre du printemps, N'oublions pas que ce qui fait l'exemplarité rétrospective de tout ça, c'est qu'il y a au moins trois arts concernés. La musique, bien entendu, à laquelle on pense tout de suite. L'architecture, avec le théâtre des Champs-Élysées, théâtre de Perret, dont, si on entend dans le détail, il faudrait rappeler qu'il se substitue à un projet plus radical de Van de Velde, hein, parce qu'on attribue toujours tout à Perret dans cette affaire, c'est plus compliqué, vous le savez sans doute. Et puis quand même, la chorégraphie, et je parle sous le contrôle de spécialistes, mais à l'heure actuelle, 2013, ça sera peut-être contredit ensuite, il me semble que la vraie grande révolution, la vraie grande rupture, c'est situé dans les corps dansants. Et que, même si c'est Stravinsky qu'on a mis en avant, c'est Nijinsky qui a avancé la proposition la plus scandaleuse pour les ballettomanes de l'époque. Et ça, on le redécouvre maintenant, mais on avait fini par l'oublier. Sur le plan des arts littéraires, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la position déjà repérée par une élite, y compris la Nouvelle Revue française, mais qui va, a posteriori, être valorisée d'un certain nombre de grands réformateurs de l'espace scénique, en particulier Ganton Craig et Appia, mais plus encore, bien sûr, parce que là, on est dans l'immédiat, avec les conséquences en chaîne jusqu'à ce matin, j'irai jusqu'au Festival d'Avignon de cette année, après tant d'autres, évidemment, le Vieux Colombier, le manifeste publié dans la Nouvelle Revue française, qui montre bien que là aussi, qu'il faut fonctionner avec une perspective trans-artistique, un minimum, sinon trans-culturelle, puisque Jacques Copeau, jusqu'en septembre 1913, c'est un collaborateur de la Nouvelle Revue française, avant de devenir le grand réformateur du théâtre qu'il devient. C'est un homme de la fameuse équipe de la NRF. Et je ne reviens pas donc sur cette nécessité de relire le trait tenu, la présence des corps, comme réponse au défi du cinématographe. Quant aux arts sonores, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rôle des manifestes futuristes, l'émergence d'une curiosité pour Eric Satie, et rétrospectivement, là en revanche, parce qu'il faut donc équilibrer le rétrospectif et le contemporain, déjà le fait que la logique de Charles Ives est lancée à cette époque-là. Pour ce qui est des arts plastiques étendus à l'architecture, quand on considère la confrontation déjà de deux artistes très discutés, mais clairement repérés comme proposant des solutions novatrices comme Frank Lloyd Wright ou Gaudi, on voit bien que, d'une certaine façon, on pourrait se retrouver dans cette confrontation entre une forme de fonctionnalisme, une forme d'architecture organiciste, on se retrouverait devant quelque chose de fondateur pour l'ensemble du XXe siècle. Ça vaudrait vraisemblablement pour le cinématographe, on pourra en reparler si la question est posée tout à l'heure, avec la confrontation là aussi entre l'hypothèse du film d'art, c'est-à-dire un processus de légitimation culturelle et en particulier esthétique du cinéma, mais je terminerai dans un instant là-dessus, et aussi la logique proprement artistique, plus qu'esthétique ou intellectuelle, qui veut qu'on s'achemine peu à peu vers l'idée que le cinématographe va concurrencer le théâtre, d'abord par l'aménagement de salles, ça c'est un mouvement qui est lancé depuis quelques années, et aussi par l'allongement de la durée de ses œuvres, puisque vous savez que la distinction court-métrage-long-métrage ne commence à devenir pertinente qu'à peu près en 1912-1913. C'est-à-dire qu'avant, cette notion que nous avons construite a posteriori n'a pas de sens. On a affaire à de courtes bandes qui, peu à peu, vont se hiérarchiser avec l'idée qu'il va y avoir un long métrage qui sera la clé de voûte. Et bien entendu, là, on est en train d'assister à un processus de respectabilisation du cinématographe qui est tout à fait évident. Sans parler de tentatives de cinéma abstrait de certains futuristes. On pourrait pousser d'ailleurs, c'est ça que vous centrez encore plus loin, je ne prends qu'un exemple emprunté à ma chère bande dessinée, qu'on n'appelle pas bande dessinée à l'époque du tout, mais les comics, puisque 1913, c'est le début de ce qui est considéré aujourd'hui dans l'historiographie de la bande dessinée comme la première forme de bande dessinée, je dirais, radicale, Crazy Cat, de George Harriman, pour les amateurs, mais peut-être pas beaucoup dans cette salle, qui est effectivement un type de bande dessinée atypique et qui commence précisément en 1913, avec d'ailleurs un certain succès, puisque ce n'est pas du tout comme certaines manifestations futuristes, c'est une bande dessinée qui va perdurer pendant toute une génération. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut interroger aussi le domaine de la création scientifique, car du point de vue de l'histoire culturelle, la création scientifique équilibre la création artistique. En deux mots, parce que crainte de trop embrasser et d'être plus que jamais spécialiste en matière générale. Enfin, cette spécialité en matière générale m'amène à défendre une thèse plus exiguë, vous le comprenez. Les sciences de l'univers et les sciences de l'homme, photographiées en 1913. Science de l'univers, c'est l'émergence de la figure d'Einstein. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que Einstein dit, pense, découvre, c'est la manière dont il s'installe dans la société culturelle de son temps. Or, depuis 1905, Einstein devient un personnage, on dirait aujourd'hui, incontournable, qu'on peut attaquer de front, mais dont on ne peut plus se passer. Et la situation se précise à la veille de la Première Guerre mondiale, d'autant plus qu'au même moment, la logique planckienne de la théorie des quanta accouche de Niels Bohr, donc de l'application de la théorie des quanta aux atomes. Là aussi, on peut se dire, d'une certaine façon, toute une logique du XXe siècle est présente. Même chose pour les sciences de l'homme, bien entendu, l'équivalent, toute chose égale par ailleurs, dans l'héroïsation culturelle, hein, puisqu'il s'agit de héros culturels, c'est Sigmund Freud. Enfin, on pourra citer d'autres, mais Sigmund Freud, c'est tout à fait clair. Bon, 1913, c'est Totem et Tabou, mais plus généralement, ce qui m'intéresse, c'est la structuration de la société psychanalytique internationale qui se situe précisément à ce moment-là, puisque quand Freud crée un réseau, c'est en 1908, la Société viennoise de psychanalyse, la première revue, c'est 1909, le premier congrès international aussi, et d'ailleurs, dès 1913, se signalent les premières scissions, dans une logique ecclésiale assez, assez simple, qu'on trouvera, qu'on trouve chez les futuristes, les survivalistes, etc. Les premières scissions commencent, la scission archétypique Freud-Jung, c'est 1913. Donc, il est évident qu'on pourrait poursuivre la démonstration, y compris dans sa dimension géopolitique, pour terminer sur ce point, puisque l'hypothèse du déplacement d'un centre géographique de l'innovation culturelle peut commencer à trouver un certain nombre de prémices dans l'Armory Show, qui est contemporain de 1913 du Woolworth Building. Pour ceux d'entre vous qui connaissent New York, c'est tout à fait intéressant de voir où on en est, en fait. Vous savez que la problématique, vous savez pas, que la problématique de l'américanisation remonte assez haut, remonte à un texte de Baudelaire, relayé par un autre texte, à chaque fois correspondant à des expositions universelles, d'ailleurs 1855-1867, mais que la réalité de l'américanisation, par rapport au fantasme de l'américanisation, se situe plutôt à partir de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui est clair, je reviendrai dans un instant quand même en prononçant le mot fatidique sur Hollywood, mais ce qui est clair, c'est qu'on sent un basculement, car l'Armory Show, bien entendu, a été reconstitué a posteriori comme un grand manifeste moderniste. En fait, c'est un débarquement des propositions nouvelles, certaines modernistes, pas d'autres, de l'Europe en Amérique. Ce qui est intéressant, c'est que ce débarquement laisse des traces, il y a un enracinement. Je dirais, c'est un peu des Pilgrim Fathers de la modernité qui arrivent. Mais bien entendu, l'Armory Show, c'est pas une exposition d'avant-garde, hein, soyons clairs. C'est une exposition qui confronte entre autres à l'avant-garde. C'est un peu comme le salon des refusés, qui n'est pas du tout un salon des impressionnistes, qui est un salon des croûtes de l'époque aux yeux des élites, dans lesquelles il y a aussi des impressionnistes. Bon. Donc c'est a posteriori qu'on a considéré le salon des refusés comme un moment aussi fondateur. Et le Woolworth Building, c'est tout à fait intéressant, puisque le Woolworth Building, que vous pouvez toujours admirer à New York, sur Broadway, le Woolworth Building, c'est un manifeste de la haute technicité américaine dans la construction des immeubles de grande hauteur, gratte-ciel, skyscrapers, mais en style gothique, style byzantin gothique. Donc on sent bien qu'il y a une proposition technologique qui n'est pas suivie sur le plan esthétique. Il faudra, d'une certaine façon, la Première Guerre mondiale pour qu'il y ait la bascule complète. Ça me permet, dans un deuxième temps, rapidement, de revenir sur le XXe siècle à cette lumière. En quoi le XXe siècle ne serait que le seul prolongement de tout ce que je viens de dire? Alors, c'est pas à vous que je vais essayer de le montrer, puisque je l'ai déjà indiqué de façon peut-être un petit peu perverse, pour forcer la démonstration. On voit bien que le XXe siècle ne peut pas être simplement un prolongement s'il n'est pas dans un continuum. Donc il va de soi que, si je cite Apollinaire, Stravinsky ou d'autres, je signifie par là même qu'ils sont eux-mêmes des héritiers d'un mouvement moderniste antérieur. En particulier, pour ne prendre qu'un exemple, on ne peut pas comprendre le fonctionnement des avant-gardes littéraires en Europe vers 1910 sans la référence au symbolisme, d'ailleurs pour ou contre. Bon. Donc ça, ceci est donné pour acquis. Donnez-moi au moins cette grâce. Il faut tenir aussi compte, ça me paraît déjà plus important, de l'importance stratégique accordée dans les années 1910 à ce que j'appellerais les grands posthumes. C'est-à-dire qu'il y a, je plaide, et je sais que mes collègues dans les différents domaines de l'histoire, littéraire, musical, etc., sont en train de le faire, mais je plaide pour une accélération des travaux sur ce que j'appellerais l'histoire de la mémoire culturelle. En d'autres termes, je vous donne un exemple très simple, il me paraît que Rimbaud et Nietzsche sont des contemporains de 1900. Et il est évident que Rimbaud est sans doute plus important encore dans les années 1960, par exemple, que de son vivant. Donc il est évident que le Rimbaud 1960, ça m'interpelle beaucoup. Et le Nietzsche 1900-1910, ça m'interpelle beaucoup. C'est tout à fait évident, et je ne citerai même pas, après tout, le cas de Stendhal, parce que Blum n'est pas loin, et le grand moment belliste, ça me paraît situé, je parle sous le contrôle de vrais spécialistes, que je ne suis pas sur cette question, plutôt situé au début du XXe siècle, ou à partir du début du XXe siècle. Donc, quand on parle, évidemment, de l'empreinte de tout ça et du continuum, il faudrait intégrer aussi l'histoire de la mémoire culturelle. Quant à la projection vers ou sur le XXe siècle, elle me paraît évidente quand on considère la logique des radicalismes antérieurs. Je viens de citer Marcel Duchamp. Bon, on voit bien que, sous une certaine lecture moderniste, ben, John Cage ou les lettristes, le land art ou l'art conceptuel, sont déjà entièrement en germe. Alors toute la question est de savoir ce que c'est qu'un germe. Enfin, un germe, dans ces propositions-là, je ne prends que l'art conceptuel par rapport au ready-made. Bon, d'une certaine façon, effectivement, si on fait de la théorie esthétique, qu'est-ce qu'ajouterait l'art conceptuel par rapport à un ready-made? Bon, voilà. Et ready-made, c'est 12, 13, 14. Donc, une pulvérisation des rhétoriques établies par le système des beaux-arts, issu de la Renaissance, pour simplifier, institutionnalisé par l'âge classique, au profit d'un autre système, parce que ce sont toujours des systèmes. J'ajouterais l'importance, me semble reconnue aujourd'hui, du futurisme, longtemps mis sous le boisseau pour quantité de raisons, par rapport à l'histoire de la performance, hein, le rôle de la performance dada, la performance surréaliste, la performance lettriste, la performance situe, dans quelle mesure elle n'est pas déjà, là aussi, fameuse question du germe, dans la performance futuriste, y compris d'ailleurs, puisqu'on est en 1913, les métachories de ma chère Valentine de Saint-Point. J'y ajouterai, puisque je parlais du système des beaux-arts, le système des grandes sciences. Le système des grandes sciences, avec la psychanalyse attaquant de front la psychologie classique, et sans doute, d'une certaine façon, puisqu'il faut quand même prononcer le mot, à travers l'acculturation accélérée du marxisme au sein de la société politique, pas simplement du mouvement ouvrier certes, mais de la société politique, quand on pense au statut complexe de Georges Sorel, une sorte de logique, en effet d'un désenchantement, j'y reviendrai pour conclure dans quelques minutes, mais une ère du soupçon appliquée, là, clairement, aux structures économiques et sociales. Avec aussi des modes d'activité qui font que ce qui va être, semble-t-il, assez typique, par exemple, d'un mouvement comme le surréalisme, le fait que ce mouvement culturel se présente comme ayant des ambitions intellectuelles, certes, mais aussi un engagement politique, eh bien, le futurisme en a donné déjà un très bel exemple, y compris dans ses contradictions internes. Alors, ce que le XXe siècle aurait apporté à tout ça, et qui me paraît non pas plus intéressant que ce que je viens de dire, mais en tous les cas aussi intéressant, parce que ça me permet de mieux comprendre l'identité de ces 75 années, le cours XXe siècle de Herrick, Hobsbawm, déjà cité, et d'autres, bah, d'une part, c'est que le XXe siècle serait le temps de la consécration de ce modernisme, donc de ce système du moderne. D'abord, la consécration progressive des avant-gardes modèles 1913, donc là, il y a toute une historiographie à faire, oui, sur la réception critique, sur la vie posthume de tous ces noms, d'Apollinaire à Schoenberg ou d'Einstein à Freud. Je sors du domaine dans lequel vous avez tous une compétence, et je suis toujours dans un domaine d'incompétence, mais je renvoie aux travaux de Dominique Pestre en ce qui concerne la physique de l'entre-deux-guerres. Dominique Pestre, qui est un bel exercice d'histoire culturelle, puisqu'il a travaillé non pas sur la physique française dans l'entre-deux-guerres, mais sur les physiciens français. Donc c'est le premier, grosso modo, qui disait, mais ces physiciens, ils ont un corps, ils ont une formation, ils viennent de quelque part, ils se situent politiquement, ils ont une vie sexuelle, etc. Bon. Donc, de toutes les façons, progressivement, on voit bien comment ces différentes propositions modernistes l'ont emporté, avec, à mon avis, une apothéose qui correspond aux Trente Glorieuses. C'est-à-dire que ce mouvement semble avoir atteint son apogée, les Trente Glorieuses, donc qu'il s'agisse dans un premier temps de la légitimation, de la consécration, ce serait peut-être le moins mauvais mot, la consécration de ces avant-gardes modèle 1913, et effectivement la nécessité de distinguer un certain nombre d'étapes. J'avais moi-même contribué il y a quelques années à ça sur un point qui pouvait d'ailleurs être discuté dans un article de la revue Mélusine en 1990 que j'avais intitulé « Le temps où les surréalistes avaient raison », bon, qui était un clin d'œil un texte surréaliste, et où j'essayais de démontrer que si on prenait, c'est toujours l'argument reverdi, il n'y a pas de consécration, il y a que des preuves de consécration. Donc moi je les cherche dans le dictionnaire Larousse, dans les manuels scolaires, universitaires, dans les encyclopédies, dans la presse, etc., en faisant des sondages évidemment. Et ma conclusion, c'était que le moment où le surréalisme s'imposait, c'était 1945, pour simplifier. D'ailleurs, c'est Maurice Nadeau. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait qu'il y a un moment essentiel, la libération comme lieu de consécration. Et tout ceci peut être étendu. J'ai cité Kandinsky. Kandinsky meurt fin 44, mais qui est la première grande exposition dont on parle à Paris quand le dernier Allemand a tourné les talons. Automne 44, c'est une exposition Kandinsky. Donc je crois qu'il y a quand même une cohérence. Et si vous ajoutez René Leibovitz en ce qui concerne l'habilitation de l'école viennoise, il y a un moment, évident, qui correspond, comme par hasard, à la libération, où cette avant-garde, dont on pouvait se demander s'il n'était pas en crise, parce que tout ça a un sens si on considère que ce n'était pas du tout la situation de 1939. Hein, on n'est pas dans une courbe continue. Ce sont des montagnes russes, au contraire. Ben, il est évident qu'il faudrait distinguer des moments fondateurs ou refondateurs sur ce plan-là. Avec d'ailleurs, au-delà de l'entrée dans les histoires encyclopédies dictionnaires, dans les programmes scolaires universitaires, dans les collections des musées, dans les répertoires des théâtres ou des orchestres, la transmutation en histoire sainte, puisque toute une partie de la littérature romanesque, voire du théâtre, du cinéma, contribue à construire ces héros culturels jusqu'à nos jours, des films sur Freud, etc. Plus subtilement, aussi une réécriture d'histoire qui fait que cette avant-garde modèle 1913 a peu à peu imposé sa grille de lecture sur ce qui s'était passé précédemment. Je ne peux pas entrer dans le détail. Il serait d'ailleurs intéressant au passage de repérer et d'essayer d'expliquer les raisons des hiérarchies, puisqu'au sein de cette consécration, il y a évidemment des hiérarchies. Alors je parle sous contrôle de spécialistes, mais comment interpréter, on a tous notre petite idée là-dessus, le fait que Apollinaire l'ait plutôt emporté sur Sandrars, au moins jusqu'à une période récente, que le surréalisme l'a clairement emporté sur le futurisme. Bon, ben, vous avez tous des réponses, ça serait un objet de discussion. Je les ai, évidemment, comme vous l'imaginez aussi. Au-delà, le XXe siècle, comme temps du triomphe de l'avant-gardisme comme système, au-delà des avant-gardes 1913, contre le vieux donc, système des beaux-arts et de la culture. La nécessité, d'ailleurs, de construire de nouvelles maîtrises. Comment, pour ne citer que deux noms, vous comprendrez à quoi je fais allusion, André Breton ou Le Corbusier imposent de nouvelles figures de maître de cet avant-gardisme. La surenchère de la néophilie, l'apogée qui serait l'hypernéisme des Trente Glorieuses, hein, nouveau roman, nouveau théâtre, nouvelle vague, etc. Tout ceci qui, à mon avis, entre en crise à la fin des Trente Glorieuses. Ce que j'avais proposé d'appeler il y a déjà longtemps la révolution de 1975, pour ça que j'ai eu. Je vous remercie d'avoir cité ce livre ancien sur l'entre-deux-mai, où je posais déjà cette idée qu'il y a un basculement révisionniste au milieu des années 70, je crois que c'est plutôt confirmé depuis là. Deuxième point, ce qu'aurait apporté, d'après moi, le XXe siècle, c'est la guerre. La guerre. En d'autres termes, ce radicalisme 1913, il est quand même définitivement coloré par cet élément nouveau, nouveau au sens où c'est la Grande Guerre, qui est 1914. La Grande Guerre, je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure, la Grande Guerre, la guerre absolue, la guerre de référence, celle que je voudrais faire, mon colon, celle que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18, avant d'être ravalée à Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, fille de la Première, ça tous les historiens sont d'accord. Suivie par une Troisième Guerre, je vous signale, complexe, qui est la guerre froide et les guerres coloniales. Parce que si on raisonne en termes de rapport de, non plus l'Occident, mais la planète, de toute façon en 1914 c'est la planète, hein, en 1918, je vous signale que la Chine, le Japon ou Panama sont en guerre. Donc, hein, c'est vraiment une guerre mondiale. Eh bien, la troisième guerre, c'est effectivement une guerre qui juxtapose la guerre froide et beaucoup de guerres coloniales. Et d'une certaine façon, les guerres coloniales s'éclairent par la guerre froide et aussi leur manière de s'autonomiser. La guerre d'Indochine, c'est une guerre coloniale de guerre froide. La guerre d'Algérie, justement, c'est autre chose. D'où d'ailleurs le changement de regard des États-Unis sur la France à cette occasion-là. Et puis, les deux grandes idéologies du XXe siècle. Que sont, politiques je précise, du XXe siècle, que sont le léninisme et le fascisme. Je dis léninisme, je pourrais dire bolchevisme, marxiste-léninisme, c'est-à-dire une certaine lecture du marxisme, dans un sens clairement avant-gardiste. Parce qu'une des définitions du léninisme, c'est évidemment le culte de l'avant-garde. Hein, de l'avant-garde politique, que faire, etc. Une synthèse qui avait déjà été testée intellectuellement en France, par le blanquisme, entre autres, mais pas arrivée au pouvoir. C'est la guerre qui permet d'arriver au pouvoir. Et je rappelle d'ailleurs que c'est arrivé au pouvoir de la proposition d'une avant-garde, une avant-garde prolétarienne. Elle se fonde sur deux épisodes qui sont évidemment intrinsèquement liés à la guerre, qui accouchent de Lénine au pouvoir. Le renversement des Romanov, qui ne sont pas renversés par Lénine, il faudrait peut-être le rappeler, je le rappelle régulièrement à mes étudiants, qui déjà ne savent plus ce qui s'est passé en 17, mais alors qui évidemment peuvent, quand ils savent vaguement, se dire « Lénine a renversé les Romanov ». Vous avez peut-être remarqué que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça fait une certaine différence, comme dit une chanson. Et puis le renversement donc, de l'éphémère solution démocrate, j'en reviendrai pas sur l'antimythe de ce pauvre Kerensky, qui était bon. Hein. Donc, effectivement, c'est la guerre qui permet l'arrivée au pouvoir de Lénine. Et c'est bien sûr la guerre qui accouche du fascisme. Puisqu'on a cité, je vous en remercie, un ouvrage qui s'appelle « Du fascisme ». Je m'étais permis à la fin de faire deux petites pages où il y avait une douzaine de questions-réponses, très vite, comme ça on pouvait se contenter de lire ces deux pages-là. Et il y avait la fameuse question « Ah, le fascisme vient-il de la gauche ou de la droite ?» Alors moi je répondais « Il vient de la guerre. Bon, » sans quoi vous ne comprenez pas pourquoi Mussolini devient et Mussolini. Et bon, ne pas oublier bien sûr le rôle de certains futuristes et non des moindres dans l'accompagnement de ces deux idéologies, puisque vous avez aussi bien la voix Mayakovsky que la voix Marinetti. Je n'apprends rien à personne ici dans cette salle, mais on l'apprend facilement, qu'en 1919, quand se créent les faisceaux italiens de combat, pas encore le Parti national fasciste, mais enfin c'est quand même là aussi le germe, la proportion des futuristes est considérable. En particulier dans le faisceau original, le germe original qui est à Milan. Donc on ne peut pas faire comme si ce n'est pas sans importance. Et d'ailleurs, les historiens du futurisme le reconnaissent, mais enfin, d'une certaine façon, c'est un mistigris qu'on se passe. Bon, effectivement, quand on... S'il y a un moment où on peut voir une avant-garde artistique, culturelle, qui joue un rôle politique, eh ben, on a un bel exemple, c'est la fondation du fascisme. Voilà. Après, on en pense ce qu'on en veut. Aussi dans le triomphe de l'image de l'intellectuel engagé. C'est pas par hasard si engagement, c'est une métaphore militaire, encore une de plus. Et la réflexion sur l'engagement de l'intellectuel, la réflexion qui va mettre en avant ce mot, et sans être nominaliste, je crois que c'est quand même important, qui commence avant Jean-Paul Sartre, il y a la contribution de Denis de Rougemont à cette réflexion des années 30, en tous les cas, il est clair qu'on ne peut pas entrer dans cette logique de l'engagement, et au-delà du nominalisme, dans le fait qu'un certain statut est accordé à l'intellectuel, sans tenir compte de la guerre. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que l'action française prend, c'est sur le modèle d'Agathon d'ailleurs, prend dans une perspective de large union, en élargissant au-delà des frontières du parti monarchiste de Maurras, prend l'initiative d'un manifeste du Parti de l'intelligence. C'est-à-dire le ralliement solennel de l'extrême droite à une problématique de l'intellectuel qu'elle repoussait, alors que bien entendu, s'il y a un superbe exemple d'intellectuel, c'est Maurice Barrès, mais qui repoussait la formule en France de l'intellectuel qui avait été monopolisé par les Dreyfusards. C'est complètement terminé après 14-18. Au contraire, l'Action française prend l'initiative, elle est à son apogée. L'Action française, n'oublions pas, est à son apogée de prestige en 1919. Si vous voulez situer le maximum de l'influence, de l'aura de l'Action française, c'est 1919. Lisez le journal de Gide, 14-18. L'Action française, c'est un journal qui lit, jusqu'à ce que Massis et les autres le prennent comme bouc émissaire. Mais vers 1917, qu'est-ce que lit Gide? C'est l'Action française. Donc le parti de l'intelligence, c'est, sous-entendu, l'Action française. Il faudra attendre les prémices du Front populaire pour que l'extrême-gauche reprenne à son compte cette image de l'intellectuel. Mais l'engagement de l'intellectuel est désormais, fait partie d'une certaine façon, d'une donnée que se partagent inégalement et suivant les circonstances les différentes idéologies politiques. Plus au fond, je dirais, pour terminer sur ce point, l'apport de la guerre, le XXe siècle comme apportant la guerre dans la culture, c'est toute la différence que je ferai entre le futurisme qui chante la technique, et pour une partie, surtout du côté de Marinetti, la guerre, et Dada, qui appelle à la guerre dans la culture, parce qu'entre-temps, eh bien, la guerre, elle est là, dans les tranchées. Alors, je terminerai dans un troisième point plus rapide, sur la nécessité de relativiser, évidemment, l'hypothèse moderniste à cette lumière, d'un point de vue culturaliste. D'abord, est-ce que l'essentiel de l'histoire culturelle ne se passerait pas ailleurs que là où je l'ai, pour les besoins de la démonstration, bien sûr, en gauchissant, placé. D'abord, est-ce que ça ne se situerait pas plutôt dans l'émergence de la culture de masse? Est-ce que ce n'est pas là que se situerait l'un des grands trends du XXe siècle? On pense à la contribution à cette analyse de l'école de Francfort. Je signale au passage l'historiographie qui serait très intéressante à faire de la notion d'industrie culturelle. Comment, après la Deuxième Guerre mondiale, sont inventés par Adorno et Horkheimer par un texte publié en allemand à Amsterdam en 1947. C'est-à-dire, la scène se passe en Allemagne, c'est-à-dire nulle part, parce qu'en 1947, il n'y a plus d'Allemagne. Et donc, ils écrivent en allemand. Vous imaginez le symbole, hein, Adorno et Horkheimer, qui écrivent en allemand et qui publient à Amsterdam le premier texte où ils vont, c'est une idée plutôt, semble-t-il, d'Adorno que d'Horkheimer, mais peu importe, pointer du doigt le mal, l'industrie culturelle. Et j'avais repéré, en tapant sur différents moteurs de recherche, que le premier texte français qui, en titre, met l'industrie culturelle, c'est 10 ans plus tard un rapport de diplômés de HEC. Et c'est devenu positif. Donc c'est très intéressant de voir comment l'offensive d'Adorno Horkheimer contre ce qui leur paraît, surtout aux yeux d'Adorno, on imagine, scandaleux, l'association d'industrie et de culture, est devenue positive. Pourquoi pas ? Et aujourd'hui, je vous rappelle que dans l'organigramme du ministère français de la culture, il y a un service qui s'occupe des industries culturelles. C'était, en quelque sorte, neutralisé. Alors là, il faudrait repérer les grandes étapes. Le couple cinéma-TSF, comme on disait à l'époque dans l'entre-deux-guerres, le couple télévision-disque-micro-sillon pendant les Trente Glorieuses, les loisirs de masse, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, émergence d'une culture de masse. Deuxième trend, auquel je suis très sensible, vous l'aurez déjà compris, j'ai donné quelques exemples depuis le début de cette conférence, la légitimation des formes dominées de culture. Les formes dominées de culture dans l'espace géographique, les cultures extra-occidentales. Dans l'espace social, les cultures populaires, sous toutes leurs formes. Et dans l'espace culturel, les arts mineurs. Hein. Légitimation, consécration de la photographie, du cinéma, du design. La synthèse des deux populaires et mineurs, les arts du cirque, la bande dessinée. Des trois, les musiques pop, le jazz, etc. Toute l'histoire des filles qu'il faudrait reprendre à nouveau frais. Un point commun derrière tout ça, évidemment, l'application au domaine de la culture, de la logique, de la souveraineté populaire. Et l'émancipation des trois grandes cultures dominées que sont, alors ce qu'on appellera dans, à l'époque des Trente Glorieuses, le tiers-monde, donc l'extra-occidental, les classes populaires, notion qui s'est démantibulée ensuite, mais qui fonctionne encore au début des années 50, enfin, au début des Trente Glorieuses, et puis les genres, au sens gender, dominés. Et à chacun des moments de révolution, les mouvements de libération nationale, d'abord en Asie, puis au Moyen-Orient, puis en Afrique, les mouvements de libération sociale, les mouvements de libération genrée. Il me semble que l'un des points essentiels de la révolution culturelle du XXe siècle, ce sont les formes de libération genrée, la libéralisation de la contraception, avec le moyen technologique, la pilule, de l'avortement, le mariage pour tous, etc. Et le XXe siècle se clorait effectivement sur cette révolution de 1975, post-moderne, dans tous les sens du mot. Je crois que c'est significativement partie de l'architecture, vous savez sans doute. L'hypothèse postmoderne est une hypothèse avec laquelle il faut se confronter, qui me paraît tout à fait intéressante, et dont les victimes sont entre autres deux des références 1913, émergentes en 1913, et aujourd'hui hein, accablées, le marxisme et le freudisme. Donc fermeture, alors je ne dirais pas de la parenthèse. J'ajouterais même le fait que dès la fin des Trente Glorieuses, et ça s'est accéléré depuis, le primat de la physique s'est affaibli au profit, me semble-t-il, du primat de la biologie. Pour simplifier, les Trente Glorieuses, c'est l'apogée, effectivement, très 1913, pensez au mythe de l'énergie atomique, les deux courses aux armements, toujours la guerre, et à l'espace, hein, forme sublimée de la guerre froide si on veut. Hein. Bon, tout ça, ça fait de la physique la science reine. J'en parlais encore récemment à un physicien, qui se tortille un petit peu, mais qui est obligé de dire « Oui, finalement, on a jamais été aussi rayonnant qu'en 1960. » Et puis, peu le fait que d'autres sciences se sont présentées à la porte de la consécration, et il me semble que le biologique a peu à peu pris la place du physique. Je parle bien sûr ici d'une hiérarchie sociale. Je ne me prononce absolument pas sur la qualité, que je ne peux pas mesurer, d'ailleurs, qui peut la mesurer, les découvertes scientifiques, etc. Mais après tout, et je termine bientôt, après tout, en cherchant bien, 1913 peut nous éclairer, puisque, je vous livre simplement ces éléments, puisque j'en suis à 44 minutes, 1913, c'est Hollywood, pour simplifier, si on rentre dans la micro-histoire d'Hollywood, premier tournage 1910, studio Keston de Max Sennett 1912, premier long-métrage, Cécile B 2000, comme il se doit, 1914. Donc on y est. Et puis 1913, ça a déjà été rappelé, le prix Nobel de littérature à Rabindranath Tagore, quand même. Bon. Passer de Sully Prudhomme à Rabindranath Tagore, vous voyez, un peu plus d'une décennie, c'est quand même assez intéressant. Entre-temps, il y avait eu Frédéric Mistral, entre parenthèses. Frédéric Mistral. Bref. Et puis en élargissant, d'un côté, déjà bien installé, ces éléments qui vont se cristalliser, permettant une réflexion sur ce qu'on appelle, non pas les masses, effectivement, mais les foules. Alors c'est toute la différence entre les masses et les foules. Hein. Bon, pas simplement Gustave Le Bon. Et au-delà de la réflexion, la réalité de la presse populaire, de la presse photographique, lancée avant 14, de l'architecture de béton armé du verre, et moi je voudrais qu'on accorde une très grande importance à ce grand architecte que, d'un point de vue franco-français, on oublie face à Le Corbusier, qui est Peter Behrens, qui est quand même quelqu'un d'essentiel, et dont d'ailleurs trois apprentis, trois stagiaires, en 1910, 11, 12, 13, s'appellent Gropius, Mies van der Rohe et Le Corbusier, excusez du peu. C'est déjà la technologie culturelle de masse, l'enregistrement musical, les essais de cinéma sonore, la TSF, à laquelle la Première Guerre mondiale, là aussi, va donner une ampleur qui permettra le passage à la programmation civile. Hein, mais la technologie de la TSF est là. Je n'exagérerai pas en disant, parce que c'est, évidemment c'est un peu rhétorique, que le projet, mais ce qui est intéressant, c'est évidemment, à ce stade, dans ma perspective, le projet, la projection, le projet et la mise à plat des moyens techniques pour l'atteindre, de télévision, date précisément du congrès de l'électricité de 1900. Évidemment, ce système de la culture de masse va se prouver sur le terrain dans un domaine très simple, qui est celui des loisirs de masse. Alors, on peut éternellement discuter du moment où on bascule dans le loisir de masse, mais en 1913, vous avez déjà, aux États-Unis, cette proposition qui s'appelle Barnum et ses successeurs, Coney Island, et d'une certaine façon, la France peut y contribuer par l'importance qu'y a le cinématographe et Max Linder, première star, hypothèse, et le Tour de France. Le Tour de France qui est un modèle absolu de la manière de concevoir un loisir de masse où on est de plus en plus spectateur. Puisque un des charmes, évidemment, de ces tours, de ces compétitions, mais le Tour de France est une grande réussite, c'est pas le premier, mais c'est une grande réussite, c'est qu'il y a beaucoup plus évidemment de spectateurs que d'acteurs. Et il faudrait peut-être là aussi rendre hommage à Canudo, hein. Canudo qui est quand même l'homme qui va inventer la formule du 7e art et qui est déjà présent avant 1914, sans parler plus subtilement du rôle de l'ethnographie. Freud, le Freud de Totem et Tabou est incompréhensible sans James Frazer, la notion d'art nègre, la philosophie indienne, etc., au-delà, le parti du Congrès, puisque je parle de philosophie indienne, après tout, la première grande proposition. Aujourd'hui, où on se prépare à célébrer la mort de Mandela, etc., la première grande proposition sur ce plan-là s'appelle le Parti du Congrès, qui est déjà en pleine efficacité, sans parler de Kuomintang, avant 1914. Alors j'arrête là l'exercice de style un peu théorique. Je termine en deux mots, en guise de conclusion, donc d'ouverture, bien sûr, puisque j'ai parlé de un peu au-delà. Le un peu au-delà, bon, c'est que la suite des événements relativise évidemment cette théologie moderniste, d'après moi. Mais ça n'a rien de problématique pour l'histoire culturelle, parce que l'histoire culturelle, et j'allais dire payer pour savoir que l'histoire n'a pas de sens assigné. Ce qu'elle essaye de faire, c'est l'histoire des sens qu'on assigne, successivement ou simultanément, de manière convergente, peut-être là, cette occasion, ou contradictoire, mais la contradiction fait avancer sur deux jambes. 1913 croyait, d'une certaine façon, à l'enchantement, je reprends pour terminer votre problématique, mesdames, et Max Weber est déjà là, bien présent, et tout ce qui va être réuni dans les essais sur la théorie de la culture. Le plus étonnant, d'une certaine façon, alors c'est un jugement de valeur, bon, qui n'engage que moi, c'est que le XXe siècle a continué, d'une certaine façon, à enchanter, y compris par sa manière de désenchanter, qui était une proposition qu'on peut en effet qualifier de moderniste. Mais évidemment, à force d'enchanter par le désenchantement, on risque de désenchanter le désenchantement, et ce serait peut-être la situation d'aujourd'hui. Faut-il le regretter ? Ça, il faut vraisemblablement attendre, en effet, le colloque de 3013
que je vous annonçais
tout à l'heure.
Très bien.